niveau d'exigence pour naviguer sous l'eau et la préparation au combat, la préparation aux opérations, etc. Font que oui, c'est notre fil rouge depuis bien, bien longtemps, le fait d'être prêt à un combat d'haute intensité sous l'eau, en tout cas avec un sous-marin, ce qui ne veut pas forcément dire sous l'eau. Donc oui, je pense que la guerre sous-marine, en tout cas, les sous-marins auront clairement leur mot à dire le jour où, ben, si ça doit arriver, le combat haute intensité auquel on se prépare arrive réellement. Quoi.
Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des experts du secteur. Dans ce nouvel épisode de notre mini-série exclusive sur la mission Jeanne d'Arc 2022, nous partons à la rencontre de l'enseigne de vaisseau Quentin, instructeur du domaine de la lutte sous-marin sous la mer dans le cadre de la mission Jeanne d'Arc. Il partage avec nous le quotidien et les différentes missions d'un marin déployé à bord d'un sous-marin nucléaire. Nous souhaitons une bonne écoute. Bonjour lieutenant, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, je suis le lieutenant de vaisseau Quentin, issu de la promotion 2010 de l'école navale et actuellement instructeur du domaine de la lutte sous la mer pour les officiers élèves embarqués à bord de la mission Jeanne d'Arc, cette mission Jeanne d'Arc 2022.
D'accord. Du coup, vous avez été vous-même élève de cette mission et là maintenant professeur. J'imagine que ça doit être assez intéressant à vivre.
Alors oui, c'est très intéressant. Alors moi, je me considère plus comme instructeur que professeur. On joue un peu sur la sémantique, mais c'est pas mon métier. Mais c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de passion. C'est le fait de partager son expérience et ses connaissances. C'est vraiment quelque chose qu'on fait tout au long de la marine. On a toujours quelqu'un à former plus jeune que nous. Et du coup, bah, ça vient assez naturellement, même si après, derrière, bien évidemment, comme je viens de le dire, on n'est pas professeur. Et c'est bien un métier à part entière. Donc moi, j'ai eu l'occasion de faire ça pendant 2 ans. Et ce qui me tenait vraiment à cœur, oui, c'était de partager l'expérience et la passion, l'envie qu'on développe au fur et à mesure des années et des opérations qu'on peut mener.
J'imagine que pendant les cours ou pendant les interventions, vous leur expliquez aussi comment se passe la vie à bord d'un sous-marin, parce qu'on n'a pas forcément l'idée. C'est des jeunes qui viennent presque du civil, il n'y a pas très longtemps encore. C'est quoi les questions qui reviennent le plus, qu'on vous pose peut-être ?
Alors là, la question qui est très régulièrement posée, c'est la question de la communication et de la vie enfermée. C'est bien évidemment deux contraintes très fortes pour les sous-mariniers, mais qui sont en fait très bien acceptées. En tout cas, moi, je les vis très très bien. Donc à savoir, tout et combien, est-ce que je peux appeler la maison, est-ce que je peux appeler mes parents, etc. Est-ce qu'on a Facebook, Instagram, enfin, est-ce qu'on a tous les réseaux sociaux sous l'eau ? Bien évidemment, non. Et bien sûr, c'est pour le besoin opérationnel, donc ça, il n'y a pas de souci. Et après, la partie plus confinement, est-ce que si je suis claustrophobe, est-ce que ça fonctionne ou pas ? Très rapidement, en fait, c'est le quotidien des opérations et du rythme de cœur qui prend le dessus. Et la passion, l'énergie, l'adrénaline de tout ce qui va avec. Et du coup, ça s'efface complètement et on réalise même plus qu'on est sous l'eau à plus de 40 000 km/h sans regarder devant nous. Quoi.
Ouais, c'est impressionnant. Les missions sous l'eau peuvent durer jusqu'à combien de temps ?
Alors, sur un sous-marin nucléaire d'attaque, on peut monter jusqu'à 45 jours, je crois, le chiffre officiel. De toute façon, la seule chose qui nous limite réellement, c'est nos réserves de nourriture. Hein. On est capable d'être complètement autonome pour tout le reste. Et donc c'est vraiment ça, c'est la taille des frigos qui fait la différence.
Du coup, il faut moins manger, quoi.
Il faut moins manger, tout à fait.
Est-ce que le métier de sous-marinier est une spécialité qui est beaucoup demandée au niveau de l'école navale par les élèves ?
Alors, pas forcément plus que les autres. Cette année, on avait le nombre de candidats pour le nombre de places dont la gestion, la DPMM avait besoin. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière. Et en général, ça reste un métier qui est compliqué d'expliquer. Et surtout, je pense que les élèves ont du mal à se projeter tant qu'ils sont à l'école navale. Et à partir du moment où ils arrivent sur une unité, en particulier sur le PHA qui accueille la mission Jeanne d'Arc et son escorteur, eh ben, ils rencontrent des marins qui ont réellement les spécialités qu'ils envisagent. Et du coup, ils se projettent davantage, voire ils annulent un peu leurs projections parce que du coup, ça ne leur correspond pas du tout. Et dans ce cas-là, bah, ils sont ouverts à d'autres propositions, entre guillemets. Et donc, en l'occurrence, là, ça peut être une petite source de recrutement pour les forces sous-marines, hein, qui est une petite part de mon métier, bien évidemment.
D'accord, ouais, chacun prêche pour sa paroisse en quelque sorte.
Oui, bien évidemment. Enfin, on cherche tous à faire en sorte que nos unités tournent au mieux. Donc, on veut avoir l'embarras du choix, on veut avoir l'embarras du choix parmi les meilleurs. Et c'est une petite guerre de chapelle tout à fait assumée et une bonne enfant.
Sur cette mission Jeanne d'Arc, il y a des exercices, il y a beaucoup d'exercices, beaucoup de simulations de cas, de cas non conformes, etc. J'imagine qu'avec les sous-marins, il y a beaucoup de choses. Comment ça se passe? C'est quoi le scénario type auquel doit faire face un futur officier de l'école navale?
Alors, dans le domaine de la lutte sous la mer particulièrement, les élèves sont mis en situation au central opération avec un adjoint dans ce domaine-là, qui en fait est chargé de faire la simulation et de faire en sorte que les procédures élémentaires, donc faire ces gammes, et ce qui permet de comprendre ensuite, une fois qu'ils arriveront sur frégate ou un peu plus tard sur sous-marin, l'action qui est en cours, les procédures qui sont déroulées. Et pour rapidement prendre les devants et en devenir les chefs et mener ces actions en bien.
D'accord. Et concrètement, en quoi ça consiste? C'est de détecter une présence de sous-marin et potentiellement répondre à ça?
Oui, tout à fait. En fait, on simule le fait qu'ils soient sur frégate anti-sous-marine, qui est bien évidemment pas le cœur de métier du porte-hélicoptère. Et ensuite, on leur met un contact fictif sous-marin. Et donc ils réagissent, ils déroulent exactement les mêmes procédures qui sont déroulées sur les frégates type FREMM, etc. Pour justement acquérir ces bases. Et tout est simulé à ce niveau-là. Et de temps en temps, on a la chance de pouvoir, au cours de la mission, faire des interactions avec des vrais sous-marins. Ça a été le cas en océan Indien, ou sinon avec des cibles. Donc des cibles pour simuler tout simplement un contact, mais avoir réellement un contact sur l'écran sonar. Et donc là, c'est plus sur l'escorteur qu'a lieu cette action-là. Et donc les élèves ont pu voir à plusieurs reprises au cours de la mission ce type d'événement très intéressant et instructif pour eux.
Est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant dans les programmes, la lutte sous la mer?
Alors, la lutte sous la mer est, à mon sens, un domaine de lutte qu'on met en avant depuis très longtemps. Pour la simple et bonne raison que c'est le pilier de la dissuasion nucléaire française. Donc forcément, on fait tout pour que ce domaine de lutte fonctionne bien et que la France soit performante, parce que c'est le gage de sûreté et de sécurité de notre dissuasion. Mais de plus en plus, plein d'autres domaines de lutte montent en puissance. On peut penser actuellement à tout ce qui est cyber, tout ce qui est la capacité de naviguer sans donner de position fiable. Toutes ces choses-là, ça se développe, la lutte anti-missile hypervéloce, on peut imaginer plein de choses. Et donc, tous les domaines de lutte progressent, avec un intérêt qui est différent forcément en fonction du type de bâtiment sur lequel vous naviguez. Mais in fine, je pense que tous les domaines de lutte évoluent et ont un intérêt.
Ouais, il n'y a pas forcément l'un d'entre eux qui monte un peu en puissance rapport à la situation un peu géopolitique globale.
Non, parce que nous, enfin, les domaines de lutte évoluent sur du long terme, hein, les programmes d'armement, les programmes de doctrine, ce n'est pas quelque chose qui évolue en 6 mois, donc forcément, faut que ça s'inscrive dans la durée. Et donc ça, en général, les événements géopolitiques ont tendance à façonner, mais à très bas niveau, parce que le programme est déjà bien établi, que ce soit en réflexion doctrinale, que ce soit en conception, en construction de nouveaux bâtiments, etc.
Sur la phase d'instruction, là vous partez au niveau zéro ou est-ce que lors des 2 ans d'école navale, il y a déjà eu beaucoup de bases qui ont été vues?
Alors, dans le domaine des opérations, donc la conduite du quart au central opération, les élèves partent de quasiment rien, à part leurs connaissances qu'ils ont développées de leur côté. Ils n'ont pas de cours avant d'arriver sur la mission Jeanne d'Arc concernant le domaine des opérations. Et donc, ils partent effectivement de zéro, ce qui est compliqué au début, mais ce qui a un avantage, c'est qu'on peut entre les différents instructeurs, faire absolument ce qu'on veut pour leur formation. Et il n'y a pas du tout de vernis à gratter avant de mettre les couches qui sont les bonnes couches, on va dire, de peinture pour en faire des bons officiers opération par la suite.
Voilà. D'où cette question de recrutement aussi, plus simple peut-être.
Oui, je pense que c'est lié. Malgré le fait qu'ils ont quand même, pour la plupart, une très bonne idée de ce qu'ils veulent faire, sur différents fondements qui dépendent de chacun, mais ils arrivent en général avec les choses bien ancrées sur comment ils voient, en tout cas, les premières années de leur marine.
Sur la question de la vie sur le navire, est-ce qu'ils sont formés aussi un peu à ça, au fait de se projeter peut-être en sous-marin, qui n'est pas forcément le même, pas le même espace forcément, ou les mêmes relations aussi avec les gens?
Alors, l'aspect de la question sur les sous-marins, non, pas du tout, dans le sens où, quoi qu'il arrive, ils iront servir au moins un an sur bâtiment de surface, de toutes les tailles, mais sur bâtiment de surface, avant de rejoindre les forces sous-marines. Donc en fait, mon objectif n'est pas du tout d'en faire tout de suite des jeunes sous-mariniers aptes à naviguer sur sous-marin, mais bien plus des officiers du domaine des opérations qui soient capables d'occuper les postes de chef du quart, que ce soit en passerelle, au CO. Les instructeurs de Energ s'occupent aussi de les faire travailler pour qu'ils soient performants en machine et en électricité, et tout ce qu'on peut imaginer, en sécurité. Et donc c'est bien ça, être capable d'être officier de garde. Et donc ça, c'est vraiment le socle commun à tous les officiers de marine qui passent par la mission Jeanne d'Arc pour d'abord mettre en pratique sur un bâtiment de surface et ensuite, éventuellement, dans mon cas, les retrouver plus tard aux forces marines.
Sur l'aspect pédagogie, comment ça se passe quand c'est pas son cœur de métier, comme vous venez de le dire? Est-ce que c'est quoi les difficultés pour réussir à transmettre quelque chose d'efficacement à des jeunes comme ça?
Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, c'est pas notre métier, mais on a, à force d'avoir aidé des plus jeunes à progresser, on a une petite notion. On a la chance d'avoir des référents pédagogiques à l'école navale qui peuvent éventuellement nous donner des petites astuces pour essayer de mieux faire passer nos messages. Et ensuite, surtout, c'est de la compétence, de la remise en question en permanence pour aller se réapproprier la doctrine, les éléments de base de la technique, de la tactique, pour être capable de les vulgariser. Et vu le niveau visé, ça suffit largement. Et c'est ensuite en faisant leurs armes sur leur frégate qui deviendront des spécialistes du domaine. Mais pour l'instant, c'est vraiment partant du niveau zéro, on ne peut pas espérer en faire tout de suite un équivalent d'un lieutenant de vaisseau sur frégate.
Même si vous n'êtes pas d'une génération vraiment très antérieure à eux, je viens de vous dire que vous étiez assez jeune. est-ce que vous relevez malgré tout des différences avec votre promotion à vous et cette promotion actuelle au niveau de, je sais pas, peut-être dépendance aux réseaux sociaux ou un peu ce qui touche n'importe quel jeune de 20 ans aujourd'hui?
Alors effectivement, il y a l'accessibilité aux communications au sens large du terme qui change. Après, à partir du moment où de toute façon on est en mer, il n'y a plus de réseau, donc c'est relativement simple à effacer. Et je pense que toutes les promotions ont leurs petits défauts. La plupart sont les mêmes, parce qu'on a tous, 23, 22 ans quand on arrive sur la Jeanne. On est tous grosso modo issus du même parcours. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas grande différence, il y a des petites variations, mais et qui surtout se lissent au fur et à mesure de la mission, et surtout une fois arrivé dans les forces, là, tout s'efface et on est tous des officiers de marine de la même compétence, enfin du même niveau, on va dire.
Il y a une question que je voulais beaucoup poser à un sous-marinier, c'est est-ce que vous avez des conseils à donner à des gens qui ne sont pas forcément dans les forces sur comment on gère le stress, comment on gère cet enfermement continu pendant plusieurs jours d'affilée comme ça, loin de tout, les uns un peu sur les autres. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour ça?
Alors, il y a plusieurs petits conseils. Le premier au niveau de la vie au quotidien, hein, c'est chacun a son espace, respecte l'espace des autres et respecte bien évidemment tout le monde dès qu'on est en espace commun. Mais ensuite, ça c'est quelque chose qui s'apprend très très vite dès les premiers jours pardon, de mer. Et ensuite, pour la durée sous l'eau, c'est la routine du travail qui prend le dessus et qui permet d'être concentré sur les opérations en cours, sur la conduite du sous-marin. Et donc, c'est bien ça qui fait que les heures et les jours passent et en fait, on ne se rend pas du tout compte du temps passé sous l'eau et on est ravis, bien évidemment, de retrouver nos familles sur le quai. Mais le temps ne paraît pas si long en soi une fois qu'on est dans l'action.
Est-ce que au niveau personnel, justement, quand on a une vie de famille, c'est quelque chose qui peut être à la longue handicapant ou au contraire qui permet aussi de créer des moments de pause avec son conjoint, sa conjointe?
Pour les forces marines,
Ouais.
ouais. Alors, moi je pense que les forces marines, c'est quelque chose. Le rythme des forces marines est quelque chose de très positif pour les familles. Parce que on a un rythme relativement fiable, qui a bien évidemment des petits aléas techniques ou opérationnels, mais quoi qu'il arrive, les périodes de mer sont assez bien identifiées. Et du coup, ça permet de se projeter assez loin en fait avec sa famille, à la différence de bâtiments de surface qui peuvent très rapidement partir sur alerte. Et ça, c'est en partie dû au fait d'avoir deux équipages sur les sous-marins. Et ensuite, effectivement, la question des communications peut être délicate avec la famille. Les différentes missions que j'ai pu conduire, on a réussi à avoir un échange de mails à peu près par semaine, et qui en fait est très bien, parce que de toute façon, un marin en mer est tellement décorrélé de ce qui se passe à la maison. Moi j'estime qu'il ne faut pas forcément partager beaucoup plus dans le sens où c'est plus de tracas que de bénéfices à la fin.
Ouais, un peu comme quand un militaire part en opération extérieure, il n'a pas besoin d'avoir du bruit, du parasitage de la vie quotidienne.
Voilà, effectivement. Alors je pense qu'on a tous besoin de rester en lien avec notre famille, bien évidemment. Par contre, oui, c'est le tracas du quotidien, tous les petits soucis du quotidien où malheureusement on ne peut pas faire grand-chose et ça apporte plus, je pense, ça fait plus cogiter qu'autre chose.
Comment ça se passe quand ça se passe pas très bien justement entre vous, entre collègues, parce qu'on peut pas aimer tout le monde, on peut pas être ami avec tout le monde. Comment ça se gère dans un sous-marin, ça?
Et bon, on en reste au strict niveau professionnel et ça fonctionne très bien. On vous demande pas d'être copain avec tout le monde à bord, on n'est pas là pour ça. Étant vraiment là pour conduire des opérations et faire fonctionner le bateau, la seule question de savoir c'est est-ce que chacun est à son poste et a le niveau pour l'occuper. Et après tout le reste c'est on met ça de côté et ça se passe sans accroc.
Est-ce qu'au niveau hiérarchique, il y a une différence entre quand vous êtes sous la mer ou sur un navire
Alors, pas du tout. La seule petite différence qu'on pourrait envisager, c'est le fait que sur sous-marin, comme vous l'avez dit, on est tous les uns sur les autres. Hein. Donc effectivement, les liens peuvent être très faciles. On est physiquement proches, donc c'est plutôt facile d'échanger. À la différence, par exemple, d'un porte-hélicoptère amphibie qui est immense, hein, qui est un des plus gros bateaux de la marine. Donc ça, c'est forcément plus compliqué, plus délicat. Mais sinon, après, non, le fonctionnement, ça reste le fonctionnement d'un équipage de la Marine nationale classique. Et on y est très attaché parce que ça reste. On n'est pas que sous-marinier, on est aussi marin de la Marine nationale, quoi.
Il y a beaucoup de passerelles entre l'univers des sous-mariniers. Enfin, est-ce qu'on peut arrêter d'être sous-marinier pour travailler sur un porte-hélicoptère, par exemple
Alors. Oui et non. La plupart du temps, quand même, vu le temps que ça prend de former un sous-marinier et la progression qu'il a au fur et à mesure des missions qu'il va faire, il n'y a pas forcément d'ouverture dans ce sens-là. Par contre, effectivement, si un sous-marinier ne veut plus naviguer sous l'eau ou n'est plus suffisamment bon, ne s'investit plus suffisamment, et ben effectivement, l'état-major des forces sous-marines vont lui demander de quitter et éventuellement d'aller voir ailleurs parce qu'il est plus haut niveau et l'exigence de naviguer sous l'eau fait qu'on peut on ne peut plus accepter de naviguer avec lui pour X raisons. Et donc après, en tant qu'officier, il y a un peu plus d'ouverture. Parce qu'il y a des moments particuliers où il y a des postes comme le mien, instructeur pour la mission Jeanne d'Arc, qui s'ouvrent. Et donc ça, c'est à différents moments de la carrière et il faut être observateur et éventuellement saisir l'occasion.
Ça, c'est un poste qui est beaucoup demandé, le poste d'instructeur.
C'est un poste qui est demandé. C'est un poste où, bien évidemment, l'état-major des Forces Marines choisit ou en tout cas présélectionne certains candidats pour sur multiples critères, hein, bien évidemment. Les meilleurs, on est tous meilleurs, donc il n'y a pas de problème. Non, c'est de plaisanterie, mais c'est en général, oui, un poste qu'on garde au sous-marinier et ensuite au sein des forces marines, on vient proposer à différents candidats potentiels parce que mine de rien, c'est 2 missions de 5 mois, c'est quand même pas rien. Donc,
c'est sur cette mission-là qui est en train de se terminer au moment où on enregistre cet entretien. C'est quoi le meilleur souvenir que vous gardez? Question facile, ça.
c'est pas une question facile. D'un point de vue personnel, c'était le fait de retrouver ma famille sur différentes escales. C'était assez fort comme moment. Et du coup, de mine de rien, partager un peu cette mission avec eux, en tout cas plus facilement. Et d'un point de vue professionnel, c'est davantage c'est pas forcément un moment en particulier, mais c'est l'évolution des élèves, des officiers élèves là, qui commencent à faire leur gamme, qui commencent à prendre conscience du métier qu'ils attendent, etc. Enfin, toute leur prise de conscience, de connaissances, d'expérience, tout ce qu'on peut imaginer. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on observe assez facilement en tant qu'instructeur entre le moment où ils arrivent le mi-février et le moment où ils débarquent mi-juillet. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez remarquable, je trouve.
Il y a combien d'élèves qui aimeraient travailler dans un sous-marin dans cette promo?
Alors, c'est une vingtaine.
Ouais. Et c'est quoi qui les pousse à faire cette spécialité-là? Ils vous ont pas dit un petit peu...
C'est le métier de sous-marinier. La plupart, enfin, une grande partie quand même, dès le début, savaient qu'ils voulaient rejoindre les forces sous-marines. Bien évidemment, le mythe que ça représente. Non, et je pense qu'on leur a beaucoup parlé du cadre dans lequel on travaillait. Et effectivement, la relation au sein des équipes, au sein de l'équipage, au sein des équipes de car, est très particulière et vraiment différente des bâtiments de surface. Forcément, on peut naviguer jusqu'à plus d'une centaine de mètres sous l'eau. Donc, cette notion d'exigence, de risque maîtrisé, bien évidemment. Mais donc, je pense que tout ça participe à leur choix des forces marines.
Il y a des critères physiques ou même médicaux ou physiologiques pour être apte à servir dans un sous-marin?
Alors, de manière assez simple, non. Après, effectivement, il y a les médecins qui sont capables de trouver quelques signaux faibles qui pourraient être un risque assez élevé sur ce sous-marin. Surtout que, typiquement, sur SNA, on n'a pas de médecin, on n'a qu'un infirmier. Et donc, forcément, on fait en sorte d'écarter tout signal faible qui pourrait devenir une maladie assez importante ou une situation pas très agréable sous l'eau où on devrait évacuer la personne par exemple. Et donc c'est plus après du côté médical et moins du côté sélection en amont sur les compétences et capacités.
Vous disiez qu'il y a un peu un mythe autour de cette profession qui est beaucoup véhiculé aussi dans le cinéma. Je pense au film, le film français, c'est Le Chant des Loups, hein, c'est ça ?
Le Chant des Loups, oui, tout à fait.
Le Chant du Loup. Est-ce que c'est un film crédible? Est-ce que ça correspond à la réalité du métier?
Alors, il y a quelques scènes, bien évidemment, qui ont été faites pour le cinéma. Et en faire un film d'action, somme toute, très correct, voire même pas mal du tout. Et par contre, après, ce qui est très bien retransmis et de ce que j'ai pu entendre à l'escadrille à Toulon, c'était vraiment un des objectifs de l'équipe du tournage. C'est vraiment essayer de mettre en scène toute l'ambiance qu'il y avait sous l'eau, la manière de travailler, le, tous les liens qu'il pouvait y avoir entre les différentes personnes à bord. Et personnellement, je trouve que ça a été très bien fait. Et ça en fait un film qu'il faut regarder, qui, j'espère, donne des étoiles.
C'est un peu le Top Gun du sous-marinier.
Peut-être un peu moins américain, on va dire, sur les bords, mais...
Ouais. Oui. Omar Sy, maintenant, est devenu américain, quoi.
Ouais.
C'est le plus américain des Français. Pour terminer, une petite question sur la question du qui est un peu à la mode dans les armées, qui concerne la haute intensité. Est-ce que le combat de haute intensité, c'est forcément un combat de sous-marin?
Alors, je ne suis pas certain d'avoir le recul sur suffisamment d'éléments et tous les domaines de lutte pour pouvoir répondre directement à cette question. Par contre, ce qui me semble être assez clair, c'est que, comme j'ai dit depuis le début, hein, le niveau d'exigence pour naviguer sous l'eau et la préparation au combat, la préparation aux opérations, etc., font que, oui, c'est notre fil rouge depuis bien, bien longtemps. Le fait d'être prêt à un combat de haute intensité sous l'eau, en tout cas avec un sous-marin, ce qui ne veut pas forcément dire sous l'eau. Donc oui, je pense que la guerre sous-marine, en tout cas, les sous-marins auront clairement leur mot à dire le jour où, ben, si ça doit arriver, le combat haute intensité auquel on se prépare arrive réellement, quoi.
Est-ce qu'au cours de la mission Jeanne d'Arc ou de l'école navale, il y a cette formation à un véritable conflit? Parce que là, eux sont dans une génération où il n'y a pas eu de guerre majeure, en tout cas, il y a eu des opérations, mais pas des choses comme ce qu'ont pu connaître les gens pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Comment on prépare des jeunes à ça?
Alors, ce à quoi les instructeurs se sont attachés à faire, là, surtout dans le domaine des opérations, c'était vraiment se recentrer sur les systèmes d'armes, se recentrer sur nos systèmes, sur vraiment la finalité, en fait, de toute leur formation. Et du coup, je m'astreignais à chaque cours à essayer de remettre dans le contexte, effectivement, ben, dans le cadre d'une opération qui doit aller jusqu'à la délivrance d'une arme, et ben, comment est-ce que ce cours-là, ces notions-là que je viens de donner aux élèves, s'inscrivait justement sur ce fil rouge là, et pour essayer de donner du lien à tous les cours et à toutes les formations qu'ils reçoivent, parce que oui, enfin, notre finalité, hein, c'est bien de délivrer une arme, et, si nécessaire.
C'est présent, ça, dans la mission Jeanne d'Arc? Vous le ressentez un peu, cet objectif de faire toucher du doigt un peu cette finalité?
Alors, La mission Jeanne d'Arc, dans la partie un peu plus cours, instruction, oui, je pense que on est beaucoup à essayer de leur inculquer cette notion de haute intensité, enfin du fait qu'il va falloir aller jusqu'au bout pour délivrer une arme. Après, le profil de la mission, les zones traversées et les bâtiments support de la mission Jeanne d'Arc sont pas forcément référencés comme les bateaux de haute intensité, en tout cas au sens délivrer une arme. Donc c'est un peu plus délicat dans la conduite au quotidien, mais je pense que c'est pas forcément un problème, dans le sens où on leur répète régulièrement, ils voient plein d'autres choses, et ils termineront leur formation in situ sur les unités, et ça se passera très bien, et ils arriveront à prendre tout ça en compte.
Pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil à donner à un jeune qui aimerait s'engager dans la marine et qui serait tenté par qui aurait vu le champ du loup et qui se dirait peut-être que ça serait pas mal?
Alors, un conseil, je pense qu'il faut être motivé, bien évidemment. Mais je pense que s'il se pose la question, ben, c'est qu'il l'est déjà un petit peu. Et après, c'est du travail. Du travail pour être au niveau. Être au niveau, surtout pour pouvoir obtenir la confiance de ses pairs, de ses chefs. Et être au niveau en permanence, ne pas faire de défaut à l'équipage. Et c'est vraiment ça qui doit guider tout le travail d'un jeune qui arrive aux forces marines.
Très bien. Ben, merci pour ce témoignage et bonne fin de mission pour les quelques jours qui restent.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à écouter les autres et à parler de ce podcast autour de vous. Pour info, nous avons consacré le dossier du dernier numéro de notre magazine papier, le numéro 8, à la mission Jeanne d'Arc, et vous y retrouverez notamment des photos exclusives de la mission réalisées sur place. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.